Parce que sinon, on sera gêné pour la suite, oui.
Où vous placez le subconscient ?
Alors, le subconscient est une expression qui est de moins en moins utilisée, qui a été utilisée au départ de la psychanalyse et qui correspond effectivement à l'inconscient. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une expression qui disparaît. On n'a pas d'ailleurs d'explication rationnelle. Peut-être l'explication qu'on pourra en donner, c'est que l'analyse gomme le rapport dominant-dominé. Peut-être que dans la notion de sub, il y a une notion de supériorité, alors qu'en fait, c'est pas du tout le sens de l'analyse, justement. Mais je ne sais pas s'il y a d'explication réelle aujourd'hui. Y a-t-il d'autres questions pour que nous allions plus loin ?
Je n'ai pas bien compris tout à fait à la fin ce que vous avez dit, l'histoire du contre-transfert. La psychanalyse rebondit sur les expressions ambivalentes.
Oui, c'est pour ça que je posais la question, pour savoir si ça avait été saisi. Oui, supposons qu'un patient vous dise, voilà, actuellement, j'ai plusieurs fois mal à la tête dans le mois. Donc, si nous isolons comme ambivalence le terme foi, hein, je reprends l'exemple de tout à l'heure, un psychothérapeute va peut-être demander au patient le nombre, alors que nous, pas du tout. Nous allons entendre l'ambivalence foi, FOI, qui peut être aussi, par exemple, la ville de Foix ou Foix, F-O-I-E. Alors, c'est vrai, vous permettez de dire que pour être analyste, il faut donc avoir fait un travail sur soi, ce qui va nous amener à ce qu'on appelle la neutralité bienveillante et qui est en fait l'empathie, c'est-à-dire ni sympathie, ni antipathie pour son patient. Donc, effectivement, c'est aussi l'ensemble du travail analytique et l'approche que l'on a de son patient au travers d'une connaissance qui va faire qu'on va donc contre-transférer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus, en fait, de langage, mais donc de discours. C'est-à-dire que c'est une communication d'inconscient à inconscient avec l'analyste. Il faut savoir à ce sujet que, de toute façon, on ne consulte pas un analyste par hasard, même si c'est surprenant. Dans les grandes lignes, le patient qui consulte un analyste a quelque part la même histoire, la même sensibilité que l'analyste. Je ne sais pas si ça répond à votre demande. D'accord. Y a-t-il d'autres questions à ce niveau-là ? Alors, c'est ni antipathie, ni sympathie. C'est-à-dire que l'analyse va faire que nous allons arrêter ce que nous appelons des projections. C'est-à-dire, justement, un côté un petit peu partisan. Supposons qu'un analyste soit divorcé. Il reçoit un patient qui connaît des galères actuelles parce qu'il divorce. L'analyste, de par sa formation, ne va pas faire d'effort, mais va complètement oublier son histoire et son propre divorce. Donc, c'est ce que Freud appelait la neutralité bienveillante, en fait. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, pour un petit peu avancer et pour rentrer plus particulièrement dans les conduites d'échec, il faut savoir que un inconscient, en gros, s'est élaboré entre 0 et 6 ans. Lorsque l'enfant est dans le ventre de la mère, donc pendant la période intra-utérine, il vit un état de toute puissance, c'est-à-dire qu'il n'a pas conscience de l'extériorité. Il se vit aussi bien la paroi utérine que lui-même, que le cordon, et il va s'en suivre une espèce de déception avec la naissance. Donc c'est un traumatisme qui a été appelé par autorant que l'angoisse de dissociation, et l'inconscient va fantasmer que lors de la naissance, il perd une partie de lui-même. Donc il va y avoir une espèce de quête dans l'existence qui va consister à chercher à retrouver un petit peu cette partie perdue. Cette partie perdue est d'ailleurs curieusement identifiée à ce qu'on pourrait appeler la mère, mais la mère n'est pas perçue comme un sujet à ce moment-là, mais est perçue comme un objet. Il est certain que cette espèce de désillusion que l'être humain connaît va entraîner malgré tout continuellement dans l'existence le désir donc de retrouver cet état privilégié. Donc c'est ce qui va entraîner aussi la mise en place des fantasmes. Il faut savoir par ailleurs que l'enfant découvre d'abord sa mère puis son père, mais on s'en doute entre 0 et 6 ans. La maturité pulsionnelle est complètement insuffisante. Alors, il est bien évident que si la mère est hôtesse de l'air, l'enfant ne va pas fantasmer qu'elle est institutrice. Mais, par exemple, une mère qui travaille beaucoup peut être abordée par l'inconscient de l'enfant comme une mère n'aimant pas son enfant, comme une mère injuste, comme une mère incompétente, etc. Donc l'enfant s'identifiant à la mère va s'identifier aussi bien en positif qu'en négatif. Mais il va y avoir de ce fait une espèce de culpabilité qui va se mettre en place, puisque étant donné que le surmoi est quand même là, qui veille, donc ce juge, ce censeur et cet arbitre, va être là un petit peu pour rappeler à l'ordre donc cet inconscient qui pourrait partir à la dérive. L'inconscient, après les 18 premiers mois de la vie, donc toute cette période où il s'est identifié à la mère, va donc découvrir le père. Il va faire exactement la même chose, et là, donc, il va y avoir une culpabilité qui va se surajouter. Donc, c'est un petit peu ce qui va finalement fabriquer de l'échec. C'est-à-dire que l'enfant, culpabilité aidant, va finalement avoir peur de perdre l'amour des parents. Parce que pour lui, c'est logique, il y a une espèce d'effet boomerang. J'ai mal abordé ma mère, j'ai mal compris mon père, je les ai jugés. Donc, fatalement, je vais avoir une rétorsion. Cette rétorsion, donc, angoisse l'inconscient, c'est la mise en place de l'angoisse, au point que l'enfant va finir par se modéliser au désir des parents. Et c'est aussi ça qui va continuer à construire l'échec. Dans la vie, ça donne quoi ? Outre le fait que souvent, sur un plan affectif, on connaisse, on rencontre des galères, bien sûr, puisqu'on va essayer de retrouver malgré tout un petit peu le couple idéalisé des parents, même si les parents ne s'entendaient pas, eh bien, on peut être, par exemple, pépiniériste, alors que on était fait pour être pâtissier. Étant donné qu'on n'est pas en accord avec soi-même, ce qu'on peut appeler quelque part une dyspraxie, eh bien, on peut par exemple avoir des accidents de travail. Hein, si on est fait pour être enseignant et que l'on est avocat, eh bien, on peut très bien avoir un accident de voiture, en fait, qui se met en place, par exemple, en allant travailler. Donc, vous voyez que les diplômes n'ont rien à voir, en fait. Donc, c'est aussi toute la différence entre ce qu'on va appeler la jouissance, c'est-à-dire lorsque l'on vit par procuration, et donc le désir qui rejoint l'inné. Jacques Lacan est arrivé donc quelques années plus tard et a repris un petit peu donc les instances freudiennes. Le ça, il l'a apparenté à l'inné, le surmoi au symbolique et le moi au réel. Je pense que tout le monde a entendu parler d'une personnalité névrosée. Ce n'est pas non plus des choses qui sont dangereuses ou très péjoratives. Une personnalité névrosée, c'est quelqu'un qui, justement, n'est pas à sa place dans la vie et vit par procuration. Donc, lorsqu'un névrosé vient en analyse, hein, c'est-à-dire que tout consultant qui vient en analyse, bien sûr, c'est une évidence, n'est pas en accord avec lui-même. Pourquoi ? C'est parce qu'il a privilégié un accord moi sur moi. C'est-à-dire que les parents, très vite, ces parents qui posent des limites à juste titre, vont être apparentés justement au censeur. Et encore une fois, pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, de peur de perdre cet amour, eh bien, l'enfant va véritablement épouser donc les désirs des parents. Dans les grandes lignes, bien sûr, que pas sur la majeure partie de ses activités. Mais très souvent, il y a comme ça des dominantes qui reviennent. Alors, là aussi, ça peut parfois être rassurant pour les parents. Bon, on peut avoir 3-4 générations de notaires, mais ce n'est pas fatalement une réussite sur un plan d'un équilibre. Et très souvent, ce sont les générations qui en découlent, d'ailleurs, qui font les frais donc, de gens qui ne sont pas en accord avec eux-mêmes. Donc, la psychanalyse, donc, qui est une méthode, en fait, va faire reparcourir tout ce chemin donc entre 0 et 6 ans sans que le patient s'en rende compte, de façon à ce qu'il y ait un accord moi-ça, donc le ça donc étant l'inné, et donc il y a une rencontre avec son propre désir.